RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story, c'est de la discussion qu'on a avec vous tous les jours de 9h à midi en direct. Nous sommes avec Didier Giraud, l'agriculteur de Saône-et-Loire, avec Jean-Loup Bonamy, notre professeur de philosophie, le normalien Jean-Loup Bonamy. Et puis nous sommes avec
Maître... tout sauf normal, tu veux dire, oui.
Ça, c'est l'humour paysan, c'est l'humour de Saône-et-Loire.
Normalien ne veut pas dire que je suis du nord du Mali.
Voilà. Oh. Il ramène toujours à l'immigration,
mais, Syrien. Donc, en plus, tu sais que les dans le Mali du Nord, c'est les Touaregs. Et moi, je suis pro-Touareg. J'ai une sympathie pour les Touaregs. Je trouve que c'est un grand peuple.
Et puis, nous sommes avec Maître Sandrine Pégan, avocate. Juste, tiens, parce qu'elle vous a dit, je vais plaider à 13h. Et en fait, elle a sa robe qui est juste là. Oui. Tu peux l'attraper?
Attention,
c'est une vraie avocate, elle a une robe.
C'est une institution.
Moi, je l'ai louée. Je l'ai louée, c'est dans un déguisement.
Avocate depuis combien d'années maintenant?
Avocate depuis 18 ans. Et je suis fière de l'être. Et véritablement, quand on porte cette robe, on est investi d'une mission. Et on sait qu'on est utile à la société parce qu'on sort les gens de la NAS. Et je vais sortir deux clients de la NAS cet après-midi, notamment par rapport à leur permis de conduire. Et j'en suis fière.
On en parlera tout à l'heure avec les radars vandalisés.
C'est des délits routiers, c'est ça?
Des délits routiers, oui, c'est après-midi.
De quoi va-t-on parler dans cette deuxième heure des GG des grandes gueules? Léa Salamé, est-ce qu'elle doit quitter l'antenne si jamais son compagnon Raphaël Glucksmann est candidat à l'élection présidentielle? Ce sera tout à l'heure à 10h30, 11h20. Mais d'abord, on va s'intéresser aux tarifs des transports publics. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été dans un bus magique. C'est celui des The Who, le groupe les Who Magic Bus. Mais là, si les tarifs augmentent, il faudra savoir si on en a pour notre argent, si c'est justifié. Est-ce qu'on paye le vrai prix des transports publics aujourd'hui?
Déjà, il faut rappeler que les tarifs des TER, des bus et des métros sont décidés par les régions et les communes. Ils sont jugés trop bas, ces tarifs, par le ministère des Transports, puisqu'ils ne couvrent que 17% du financement des transports en moyenne, alors qu'il faudrait viser un ratio à minima de l'ordre de 30%. C'est ce que dit cette étude d'impact qui accompagne une loi cadre. Donc, ça veut dire que le gouvernement, et contrairement à ce qu'a dit M. Lescure ce matin à Pauline de Malherbe, le gouvernement réfléchit quand même à ce financement et peut-être à augmenter le prix des transports en commun. Alors, c'est un sujet bien sûr délicat, mais selon nos informations, le ministère des Transports prépare une loi. L'étude d'impact commandée donc préconise de doubler le tarif. Et Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement, a dit qu'une réflexion sur le financement était à l'étude. Monsieur Lescure a dit non, mais enfin, visiblement, quand même, on y réfléchit. Par exemple, en Angleterre, le ratio, c'est quasiment à 100%. En Suisse, on s'approche des 50%. C'est-à-dire 50% de ce que coûtent réellement les transports. Le problème, c'est qu'en France, on paye déjà beaucoup d'impôts, beaucoup plus qu'en Suisse et au Royaume-Uni. Donc, on peut comprendre que quand on paye moins d'impôts, on paye peut-être un peu plus le prix du transport. Nous, c'est un peu la double peine, j'ai l'impression, que ce que voudrait faire le gouvernement. C'est-à-dire, à la fois, on continue à payer beaucoup d'impôts, ils ont pas baissé dans le budget, ils ont continué à augmenter, le budget là, de Roland Lescure, et en plus, on pourrait même aller jusqu'au doublement des transports en commun. Est-ce que vous trouvez ça juste?
Didier.
Je pense que le problème des transports en commun, il y a une espèce d'acceptabilité du tarif qui est liée au service que ça rend. Voilà, je connais des villes, Clermont, tiens, par exemple, Clermont, où le tram est plutôt un peu cher, mais il fonctionne super bien, il est tout automatisé, c'est propre, c'est plutôt sécure, c'est bien desservi, et du coup.
Donc t'es prêt à payer plus si le service
est là? Tu vois, on a fait le débat avec le maire de Montpellier sur la gratuité.
À Montpellier, c'est l'inverse.
Je suis pas un grand fan de la gratuité parce que la gratuité, c'est la dégradation, c'est le je m'en foutisme, c'est le manque de respect de RER. Enfin, je suis désolé, mais les lignes de TER, les lignes de bus régulières, c'est quand même souvent en panne, c'est quand même, d'ailleurs, il y a plein de régions en France où on remplace le TER par le rail, par le bus, et du coup, ça va tout de suite un peu mieux, quoi.
Oui, mais il y a un autre argument.
Je pense que les gens sont prêts à accepter pour un service. Voilà. Il faut que le service, il soit efficient. Et si le service, il est efficient, il n'y a pas de problème
oui,
de payer.
Oui, mais quand ceux qui veulent que le prix reste bas ou que ça soit gratuit, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ça permet aussi aux gens d'éviter de prendre la voiture. On pousse aussi.
Non, mais ça, c'est une doctrine, ça. C'est pas un.
Quitter la voiture pour prendre les transports en commun.
Oui, parce que derrière, en effet, on voit bien l'idée principale, c'est qu'on prenne moins la voiture. Mais tu parlais justement de la commune de Montpellier où justement le transport est gratuit pour les résidents. Ouais. Mais ils sont ponctuels, ils sont propres et c'est sécure.
Ah mais quand ça fonctionne.
Donc alors il y a une contradiction puisque donc dans certaines oui. communes de la France, ben, tout est ok, c'est gratuit pour les résidents, pour les étudiants et tout est aux normes.
Les impôts.
Tout est au niveau. Et puis du coup maintenant on voudrait doubler le transport. Déjà soyons à niveau dans toutes les communes où il faut qu'on soit en situation de sécurité, que les transports en commun soient ponctuels et qu'en plus ce soit propre. Voilà.
Après, les TER, pardon, il y a des lignes TER qui n'ont pas été revues depuis un siècle quasiment et qui sont dans un piteux état. Est-ce qu'il faut demander aux voyageurs de payer plus?
J'ai vu des reportages, moi, en Auvergne, des lignes de TER où le train, ils sont obligés de passer à 30 parce que c'est le rail qui tient suspendu les traverses, il n'y a plus de ballast dessous. Et les mecs qui disent on est obligé de passer à 30, quoi. Donc, à un moment donné, commençons par faire les investissements, à faire un truc qui fonctionne, et puis après, on verra combien ça coûte, quoi.
Avant de compter le prix du tarif.
Oui, mais on paye énormément d'impôts pour ça.
Oui, en plus.
Où passe aux impôts. On aurait des impôts très bas, comme dans d'autres pays, comme la Suisse, etc. On pourrait comprendre de contribuer. Je comprends ton histoire, mais je ne vois pas pourquoi je dois payer, alors que je paye déjà une première fois avec mes impôts.
Jean-Loup.
Alors, non, mais. Beaucoup de choses à dire, mais moi je trouve que ça n'irait pas là d'augmenter le tarif, parce que il y a quand même un énorme problème de pouvoir d'achat en France. Vous avez vu, les statistiques sont sorties. Désormais, les Français sont plus pauvres que la moyenne de l'Union européenne. Ok, on est plus pauvre désormais. Un Français est plus pauvre qu'un Belge ou qu'un Chypriote.
Et ouais, nous faisons rattraper par les Polonais.
Exactement. Et on se fait rattraper par les Polonais. Et il y a une vraie tiers-mondisation de la France. Et donc, s'il n'y a pas de hausse des salaires, tu ne peux pas demander aux gens dégrader encore un peu plus leur pouvoir d'achat, alors qu'il y a énormément de Français qui sont pris à la gorge et qui ont du mal à finir le mois. Si là, en plus, tu charges la barque et tu augmentes le coût du transport, en plus, tu as beaucoup de Français qui prennent les transports pour travailler, donc qui sont captifs, donc tu vas rendre le travail encore moins attractif, puisqu'il faut payer pour aller travailler. Voilà, moi, je trouve que ça ne va pas. Ensuite, tu dis, t'as tout à fait raison, c'est les régions qui s'occupent des TER. Eh bien, moi, je pense que ça ne va pas. On l'a fait pour des raisons idéologiques. On a voulu décentraliser par principe. On a confié la gestion du TER aux régions. C'est très mal synchronisé avec la SNCF qui, elle, comme son nom l'indique, est nationale. Et du coup, ça pose d'énormes problèmes. Moi, je pense qu'il faudrait revenir là-dessus et que ça devrait redevenir, y compris pour les TER, une compétence nationale. Voilà. Moi, je pense que ça ne va pas.
Moi, il y a quelque chose d'autre qui me gêne. Il y a une des pistes, ce serait d'indexer sur l'inflation. Tu vois, c'est de dire chaque année, c'est ce qui est très hypocrite, puisque en fait, au lieu d'augmenter, on te dit on indexe sur l'inflation.
Et ça augmente chaque année.
Comme ça, du coup, chaque année, tu seras sur petites augmentations qui te paraîtront un peu indolores, quoi, en fait. Là où je suis à peu près d'accord avec le fait de payer quelque chose qui se rapproche du réel, les transports en commun, c'est que on est encore en train de creuser le fossé entre les France. Parce que d'un côté, t'as des gens qui vivent dans les centres-villes, alors certes qui ne peuvent pas prendre de bagnole et qui en ont plus, mais qui vont revendiquer la gratuité des transports en commun, et à côté de ça, les gens de la France périphérique, qui, comme tu l'as dit, sont pas plus riches que les autres, eux, ils sont obligés de prendre une bagnole parce qu'ils n'ont pas d'alternative et ils doivent foutre 60% de taxes chaque fois qu'ils sortent une pompe à essence.
Ah, on est d'accord.
Eh ben, je trouve que ça, c'est quand même une distorsion de concurrence dans le fait de vivre en France, quoi. Soit t'as accès à un service qu'est le transport en commun, soit tu y as pas accès. Et quand t'as accès à un service qu'est le transport en commun, ça serait quand même un minimum de pouvoir payer, quoi.
Après, moi, je trouve que. Il faut savoir ce que tu veux, parce que tu disais que c'était bien.
Non, mais quand ça fonctionne, oui, c'est plus acceptable plus de payer. Mais à un moment donné,
Ou alors, on part du principe que celui qui peut. Enfin, aujourd'hui, les transports en commun, tout le monde paye les transports en commun par les impôts. Ou alors.
Oui. Voilà. Y compris ceux qui ne les prennent pas, Olivier.
Ça, c'est tout pour tout. Par exemple, tu payes l'école, alors que si t'as pas d'enfant, tu payes l'école quand même.
Oui.
C'est le principe.
Tu payes les impôts.
Voilà. Et en bonne santé, tu cotises quand t'as 25
45 ans, a priori, t'es en bonne santé, et tu cotises pour ceux qui sont pas en bonne santé à 50 ans ou 60 ans.
C'est le système. Ouais.
C'est le système. Mmh. C'est notre système. C'est notre système généreux, l'État-providence, etc.
C'est le système qui nous étouffe.
Mais alors, il nous étouffe.
Nous fait reculer des places de compétitivité au niveau de la Pologne et de Chypre.
On va avoir un système plus anglo-saxon, effectivement, mais tu paieras plus cher ton transport en commun. Il faudra accepter.
On a Majid qui veut intervenir. Il est du côté de la Seine-et-Marne. Bonjour, Majid.
Oui, bonjour l'équipe. Bonjour.
Ça va bien. Conducteur métro, RATP ou bus, je sais pas.
Conducteur métro, ouais, RATP.
Métro. Alors, qu'est-ce que vous en
quelle
pensez
ligne
est-ce, quelle ligne
sur la ligne 9. Bonne ligne.
Ah, magnifique.
Voilà.
Ah, c'est la mienne.
Excellent.
Ah bah voilà.
Et là, vous irez en tête de ligne.
Un jour, j'aimerais bien monter, tiens, un jour dans la cabine du conducteur. Je sais pas si ça se fait, mais j'aimerais bien voir comment ça se passe.
Venez sur la ligne 9, tapez au carreau. Moi, je vous invite, pas de problème.
Ah bah je vous ferai signe. Je demanderai à chaque fois que je prendrai un lien. Est-ce que Majib est là? Bon, il y a plus un jour, je tomberai sur vous.
Vos collègues sauront nous indiquer.
Alors Majid, est-ce que il faut augmenter les prix ou pas?
Alors, augmenter les prix, non, parce que un des intervenants disait que le pouvoir d'achat aujourd'hui est très, très, très faible. Mais par contre, par nécessité, en fait, il faudrait. C'est assez ambigu. Parce qu'aujourd'hui, on paye effectivement quoi? En un petit tiers du prix réel de ce que ça coûte. Problème, c'est que la mise en concurrence aujourd'hui fait que des investissements ne seront plus faits. Ça, c'est sûr et certain. Notamment dans les bus, hein. Je ne sais pas si vous avez vu les retards de bus, les bus qui fonctionnent mal, les bus qui prennent feu, ainsi de suite. Donc, ça, c'est un manque de maintenance. Pour pallier à ça, oui, il faudrait augmenter les tarifs, mais le problème, c'est que si on augmentait les tarifs réellement à sa juste valeur, un ticket de bus qui vaut aujourd'hui 2 euros, 2,10 euros, ça en voudrait 6 ou 7, quoi.
Bah là, il est déjà, moi, quand je le prends sur mon appli à l'unité, il est à 2,55 déjà.
Voilà, 2,55, donc on passerait presque à 7 à 8 euros. Hein. Et là.
Et c'est 2,55 juste pour un aller, hein. Oui, c'est juste pour un trajet. Parce que si tu fais le retour.
Et on parlait aussi de la SNCF. Le problème aujourd'hui, c'est qu'à la SNCF, il y a eu un tel manque de moyens qu'aujourd'hui, même si on demande d'augmenter le prix des billets, ça suffirait jamais à pallier le manque d'investissement qu'il y a eu. Et le problème, il est là.
Donc on est en sous-investissement, ce qui n'est pas très rassurant pour nous d'ailleurs, M. Majid.
On est en sous-investissement, on essaye de faire du bricolage à droite à gauche, on essaye de faire comme on peut. Les équipes de maintenance, elles font avec les moyens du bord. Et malheureusement.
Et où va l'argent?
Et donc la sécurité des usagers, alors, est en péril? C'est ça, Majid, alors?
La sécurité des usagers,
57% de prélèvement, où va l'argent?
Mais vous dites qu'il y a un problème d'investissement dans les maintenances?
Alors, il y a un problème d'investissement dans la maintenance, c'est vrai. Maintenant, les bus, quand ils sortent, et les trains, quand ils sortent en toute sécurité. Ça, on est d'accord. On essaye de faire avec ce qu'on peut. Maintenant, où va l'argent? J'ai une petite idée. Je pense qu'il y a trop de cadres dirigeants, il y a trop de... Eh ben oui, pour rien que sur ma ligne, on doit être combien, 300 conducteurs, il y a presque autant de chefs ou de maîtrises.
D'un produit
bureaucratie.
Oh là là.
Bureaucratie.
Ouais, ça, je suis
inutile.
D'accord.
Bravo.
Mais alors, l'exploitation de la RATP, c'est 3,5 milliards.
Oui.
Dont 2 milliards pour les investissements, c'est quand même beaucoup, oui. Beaucoup d'argent, quoi, Majid.
Beaucoup d'argent, mais peut-être sûrement très mal fléché, parce que moi, quand j'entends 3 milliards, je les revois pas sur mon salaire. Hein.
Parce que si on prend le budget total, puisque vous êtes à la RATP, de ce qu'on appelle Île-de-France Mobilité, c'est 13 milliards.
13 milliards. Et Majid non plus, il les voit pas.
Moi, je les vois pas. C'est 13 milliards, effectivement, mais la RATP a été divisée en plusieurs entités. La RATP a été aujourd'hui coupée en plusieurs entreprises. Il y a des investissements qui sont faits, notamment dans le bâtiment, qui n'ont rien à voir avec les transports, par exemple. Vous voyez. Donc, le fléchage est très mauvais. Et aujourd'hui.
Vous voyez, mais en fait, aujourd'hui, on est dans un système où on est coincé. C'est-à-dire qu'on s'est habitué à ne pas payer le vrai prix ou se rapprocher du vrai prix. C'est-à-dire qu'on ne paye pas le vrai prix pour le médecin, on ne paye pas le vrai prix pour l'hôpital.
Tu le payes à travers tes impôts et tes charges.
Oui, mais justement, à travers mes impôts, si tu veux, c'est tu n'en as pas pour ton argent. Et deux, on te dit c'est quand même pas le bon prix. Donc en fait, on est tellement biberonné aujourd'hui à la subvention et à l'argent.
Non, mais on n'est pas biberonné, on paye.
Et par ça, on justifie les dysfonctionnements.
Mais voilà. Mais pardon, je suis désolé. L'État récolte chaque année entre 400 et 500 milliards d'argent du porte-monnaie des Français. Pardon, bien sûr que rien n'est gratuit. On paye déjà. Ça c'est pour nous faire culpabiliser encore. Vous comprenez? Mais si vous comprenez, ça ne
vous ne payez pas le bon prix.
Vous payez que 17% du financement. Mais non, on paye beaucoup plus. Après, c'est la façon dont l'État utilise notre argent qui est mal utilisé. Effectivement, comme le dit ce conducteur de métro, peut-être un peu moins de cadres à la SNCF ou à la RATP, un peu plus de gens sur le terrain et un peu plus de bus,
de maintenance,
de bus modernes, de trains modernes, de trains qui donnent envie de voyager.
Non, mais en plus, pardonnez-moi, mais là on attaque déjà le portefeuille des Français. Depuis le 1er janvier, le pass Navigo, il a augmenté.
Mais oui.
D'accord. Est-ce qu'on a eu le sentiment qu'il y a eu une amélioration au niveau du transport? Non. Alors, on a augmenté le pass Navigo, mais on est toujours dans la même situation. Donc, non, voilà, ça devient vraiment pénible.
Merci, Majid, d'avoir été avec nous. Merci bien. Et qui sait, un de ces jours sur la ligne 9.
Alors, à bientôt.
On sait jamais.
N'hésitez pas à taper au carreau.
Salut, Majid. À bientôt. Au revoir.
Merci.
Il est 10h15. Faut-il doubler les tarifs des transports en commun? C'est un non massif. À 77%. Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, on va regarder ce qui se passe dans le couple Salamé-Glucksmann. Léa Salamé, présentatrice du 20h de France 2. Raphaël Glucksmann, candidat potentiel à l'élection présidentielle. S'il devient candidat, est-ce qu'elle doit lâcher le fauteuil de présentatrice de France Télévisions, de France 2? C'est au 32-16 que ça se passe, pour en discuter avec nous. À tout de suite.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec vous. Si vous avez raté la première heure des GG, vous avez les podcasts à votre disposition. Et dans les podcasts, vous retrouvez les discussions des grandes gueules, bien évidemment, en direct. Et puis tout ce qui se dit pendant la pub, les petites remarques. Et là, on s'est intéressé pendant la pub au style Sébastien Lecornu, avec le petit pull en V ou le petit pull ras du cou, avec la cravate ou pas. Est-ce que c'est...
Sandrine,
c'est
elle n'est pas
peu,
trop.
Un peu comme toi, mais sans la cravate, quoi.
Tu vois,
j'ai un petit côté Lecornu.
Un petit côté Lecornu, c'est un bon côté province, qu'est-ce que vous voulez?
Castex,
avec des cheveux de riche.
Cornio, ouais.
T'as les cheveux de riche que n'a pas Sébastien Lecornu.
Didier Giraud.
Croisement entre Richard Gire et Denis Charvet.
Et Sébastien Lecornu.
Les cheveux à la.
Est-ce qu'on il en a pris pour son grade.
L'intelligence artificielle, mettre des cheveux à Sébastien Lecornu, voir ce que ça ferait.
Ah, bah oui, on peut faire le test.
Excusez-moi, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une ressemblance entre Charles Consigny et Sébastien Lecornu? Il faut en parler, ça.
Au niveau de capillaire.
D'ailleurs,
on les a jamais vus ensemble dans la même pièce.
Jamais.
Moi, je trouve qu'ils se ressemblent. Après, je trouve que Charles Consigny est plus sympathique, mais...
plus intelligent peut-être aussi.
Ça tire à balles réelles.
Didier Giraud est avec nous, agriculteur en Saône-et-Loire, ainsi que Jean-Loup Bonamy, notre professeur de philosophie, et Sandrine Pégan, avocate. Parlons maintenant du cas Léa Salamé, ou plutôt du couple Salamé-Glucksmann.
J'ai pas attendu la commission d'enquête pour y répondre et pour adopter une ligne de conduite extrêmement claire. En 2019, quand mon compagnon a décidé d'être candidat, je me suis retirée de l'antenne le jour même de sa candidature. 5 ans plus tard, en 2024, quand à nouveau il a été candidat aux élections européennes, même chose, je me suis retirée de l'antenne. Et cette ligne de conduite, elle vaut pour toutes les élections. S'il est candidat, je sors de l'antenne. Je l'ai dit, j'ai même préempté la question au moment où on m'a proposé le 20h. S'il est candidat, je sors et je sors immédiatement. Immédiatement. Je m'accroche pas, je sors.
Les gens sont bloqués sur ma vie. Rien que ça se pose des
qu'est-ce que
questions.
Qu'est-ce que vous êtes sûr à chaque fois pour trouver le bon
La chanson s'appelle Mon mari, Imelle S. D'accord. Alors, vous avez entendu, vous l'avez renseigné à la radio, vous avez reconnu sa voix. C'est Léa Salamé qui était.
C'est elle qui chantait la chanson d'ailleurs, il faut le dire.
Auditionnée par la commission parlementaire sur l'audiovisuel public.
Mais n'est-il pas scandaleux de demander à Léa Salamé de quitter sa fonction aux 20h si son mari est candidat? Est-ce qu'on est en 2026, on en est encore là? Alors je pense qu'elle n'a pas le choix, parce que si elle restait, il y aurait une polémique aussi bien en interne à mon avis à France Télé qu'en externe, et ça créerait sans doute beaucoup de débats. Donc je pense qu'elle ne veut pas rentrer dans ces débats. Mais quand même, si on prenons un peu le recul, c'est complètement absurde cette histoire.
Bah oui,
c'est complètement absurde. C'est-à-dire que tant qu'il n'est pas candidat, elle peut être là, alors qu'il est, Glucksmann existe politiquement. Mais le jour où il est candidat, elle ne peut plus être là. Enfin, est-ce qu'on n'est pas dans un truc d'arrière-garde?
Ah oui, complètement. Même, je pense que je vais un peu vous choquer. C'est-à-dire que je vais vous poser la question différemment. Est-ce que la femme d'un homme politique doit obligatoirement avoir les opinions de son mari? Elle n'a pas le droit d'être objective? C'est-à-dire que, par exemple, donc là, quand bien même elle était maintenue, elle se maintiendrait elle-même à son poste de présentatrice du 20h et qu'elle venait à l'interroger. Elle pourrait très bien être objective. Elle n'est pas obligée.
L'interroger, c'est peut-être, ça va peut-être un peu loin quand même. Interroger son mari.
Pourquoi pas?
À quel moment c'est pas parce qu'on vit avec une personne qu'on doit obligatoirement épouser aussi ces mêmes opinions politiques. On peut avoir des divergences.
D'accord, mais l'interroger,
c'est compliqué.
Je vois pas. Tu peux rester neutre et tu peux rester objectif.
Tu seras pas objectif.
C'est ce que ne sont pas les journalistes déjà.
Mais tu poses des questions. Tu poses juste des questions et tu te fais le porte-voix des Français. Donc voilà,
c'est juste. Tu vas trop loin là, quand même.
Non, après moi je ne suis pas féministe. Pour voilà.
C'est une question d'être féministe. C'est une question de.
C'est pour dire que là, je vois pas pourquoi elle devrait rester en poste. Ça n'a rien à voir avec une position de féministe. C'est juste que je trouve que c'est un peu masculiniste et machiste de dire, ben voilà, à partir du moment où c'est son homme qui rentre en politique et qui se présente au présidentiel, elle doit quitter son poste. Je ne vois pas pourquoi. En tout cas, c'est tout à son honneur de le faire. D'ailleurs, comme l'a déjà fait Anne Sinclair, comme l'a déjà fait aussi Nathalie Schoenberg avec Borloo.
Béatrice
oui. Avec Borloo. Pardon.
Audrey Pulvar à une autre époque.
Ouais. Ah oui, aussi. Mais moi je trouve que c'est rétrograde.
Je trouve que ce vieux serpent de mer, il a comme origine les lois complètement stupides de l'audiovisuel quant au temps de parole, à l'équité pendant les périodes électorales et enfin, je pense qu'on a une espèce d'usine à gaz là où on doit équilibrer à la seconde près, où on doit pendant les périodes électorales.
C'est le pluralisme, ça, Didier.
Mais d'accord, mais cette usine à gaz là, elle a comme conséquence que si t'es compagne ou c'est tel compagnon de quelqu'un qui est candidat, on te soupçonne du favoritisme, quoi. Je suis désolé. Si Madame Salamé, elle faisait des pneus chez Michelin, on lui demanderait pas d'arrêter de faire des pneus, quoi. Et je pense que la base de ce discrédit, de ce soupçon, elle est dans les règles qu'impose l'ex-CSA à tous les leaders d'opinion, à tous les vecteurs d'opinion au moment des élections. Enfin, à un moment donné, c'est quelque chose qui est trop lourd à porter.
C'est pas l'ARCOM qui lui impose ça,
ça fait porter une suspicion. Les règles de l'ARCOM, aussi violentes soient-elles à la seconde près, et elles font porter une suspicion que si t'es à l'antenne, peux pas être objectif.
Pendant très longtemps, on ne savait pas. Il y avait des journalistes qui avaient des relations avec des femmes ou des hommes politiques, ça ne se savait pas, et ça ne changeait rien. Le journaliste continue à exercer son métier. Quand on sait, justement, sans toute transparence, si tu sais que la personne est la compagne d'un candidat à l'élection présidentielle, au contraire, laisse-la à l'antenne, puisque tu le sais, il n'y a rien de caché. Tu vois, on ne te cache pas. Si tu trouves effectivement qu'elle n'est pas partielle, etc., tu ne regardes pas. En fait, il n'y a pas une obligation. C'est pour ça que je ne comprends pas.
Donc, moi, je pense en effet que quand bien même Raphaël Glucksmann serait candidat, Léa Salamé devrait rester à l'antenne. Et d'autant plus que, oui, il y a une hypocrisie. Parce qu'en fait, quand tu connais tous les liens incestueux entre la classe médiatique et la classe politique, les liens idéologiques, les liens financiers, les liens maçonniques, on fréquente les mêmes loges, les mêmes cercles, ou le club Le Siècle, les liens sexuels, t'as quand même beaucoup de journalistes qui couchent avec des politiques, sans que ça se sache. Le seul tort de Léa Salamé, c'est que c'est public, c'est qu'elle a une relation classique publique, et elle, on lui reproche. Alors qu'en fait, il y en a plein qui sont soit dans des liens d'affaires.
C'est elle qui s'est fixé cette règle aussi.
Mais parce qu'il y a une pression. D'ailleurs, on lui pose la question.
Parce qu'elle
pour lui mettre la pression.
Voilà, elle a pas le choix. Dans une commission d'enquête.
Commission d'enquête qui est plutôt un tribunal politique, hein, parce que plus qu'une commission.
Non mais et donc moi je suis tout à fait d'accord. Voilà, on n'est plus au 19e siècle. Une femme peut très bien avoir des idées distinctes de son mari. Donc ce n'est pas parce que ton mari
a les mêmes
idées. Voilà.
Et même si elle a les mêmes idées, c'est pas le
problème. Et en effet, je pense qu'il faut séparer les rôles. Il y a d'un côté la personnalité professionnelle et médiatique, et de l'autre côté la personne privée. Et ce sont deux personnes différentes. Et quand t'es une professionnelle, peux faire preuve d'objectivité.
Et le jour où Glucksmann est invité sur le plateau de France 2, c'est pas elle qui le présente.
Voilà, exceptionnellement une fois. Et puis voilà.
Et d'ailleurs, Jean-Loup, pour compléter ce que tu dis, il y a des journalistes qui sont partiels, qui sont pas impartiales, et ils sont pas forcément en couple avec ceux qui soutiennent.
Hein. C'est ça, il y a des journalistes qui sont d'une extraordinaire partialité sur d'autres chaînes, et on en connaît, et pourtant, ils ne sont pas officiellement en couple avec un tel.
Donne des noms. Mais en plus, tu as vu dans la commission, elle le dit en plus, elle dit mais vous pensez qu'on en est encore là, c'est-à-dire qu'une femme doit obligatoirement penser comme son mari, vous pensez qu'on en est encore là, c'était très fort ça, ce moment quand elle le disait lors de son audition.
Moi-même, à titre personnel, j'ai une histoire avec une personnalité politique connue, c'est-à-dire je suis l'ancien amant de Margaret Thatcher.
Oh,
ce n'est pas pour autant que je suis un libéral convaincu.
Voyez, je croyais que t'allais nous donner des informations croustillantes.
J'ai été longtemps en couple avec Margaret Thatcher, même si je dois dire que nous partageons les mêmes idées sur l'Union européenne.
Ouais, mais du coup, qu'est-ce qui vaut mieux ? Il vaut mieux cette transparence totale, ou il valait mieux le monde d'avant? Qu'est-ce qui est préférable aujourd'hui? Qu'est-ce qui est préférable? La transparence?
Tu laisses les gens en tête, tu ne te retires pas, tu as le droit d'être objective et d'être neutre aussi.
Du coup, la transparence met une pression de facto. Et y a
ça pousse à ne pas dire
de distorsion.
Mais pardon,
il y a des couples qui restent cachés justement pour pas avoir à perdre son job. C'est complètement débile.
Oui,
bien sûr.
Moi, je ne sais pas, moi. Toi, tu sais, mais moi, je ne sais pas.
Alors, vous voyez, par exemple, dans la justice, en revanche, il y a un conflit d'intérêts. Donc là, quand il y a un avocat qui est avec un procureur et qui se retrouve dans une même affaire, là, en revanche, comme il y a conflit d'intérêts, l'avocat doit se retirer.
Ça peut arriver, ça s'est arrivé.
Ah oui, ça arrive très
bien. Mais dans ces cas-là, et alors, s'ils sont amants? Ça se sait pas.
Alors après, bon, tu épouses quand même une déontologie quand tu rentres dans la profession.
Oui, ça, la déontologie, c'est à géométrie variable.
Il y en a une aussi chez les journalistes,
mais
normalement.
Mais donc, si en effet, tu te retrouves dans un dossier et qu'il y a ton amant et c'est le procureur, et que tu apprends qu'il va siéger ce jour-là à l'audience, tu trouves une excuse pour faire soit te faire renvoyer l'affaire, soit alors te faire substituer par un confrère.
Excusez-moi.
Mais là, il y a le conflit d'intérêts.
Notre ami que nous apprécions tous, Patrick Cohen, je ne crois pas qu'il soit en couple avec une personnalité politique. Pourtant, je me suis laissé dire qu'il n'était pas toujours totalement d'une impartialité et d'une neutralité à toute épreuve.
Tu dirais pas de nom.
Mais ça n'a rien à voir. C'est un éditorialiste.
Oui, non, mais
et on demande à un éditorialiste justement de donner un point de vue.
Léa Salamé me paraît plus objective et plus impartiale. Et quand bien même elle est en couple avec Monsieur Glucksmann, elle me paraît plus objective que beaucoup de journalistes qui ne sont pas en couple avec des politiques. Ouais.
Mais la question qui a été posée par le rapporteur, monsieur Alloncle, le député, c'était de dire, si vous étiez en couple avec Jordan Bardella, est-ce qu'on vous aurait nommé aux 20h de France 2?
Alors, c'est une excellente question.
C'est une excellente question.
Cette question, ce n'est pas à Léa Salamé d'y répondre, c'est plutôt à la direction de Radio France et France Télévisions. Et c'est évident que si elle avait été en couple avec Éric Zemmour, avec Jordan Bardella ou avec Jean-Luc Mélenchon, c'est évident que la direction de France Télévisions, qui est totalement partiale, ne l'aurait pas recrutée. C'est une excellente question posée par Charles Lalonde. C'est juste que ce n'est pas Léa Salamé d'y répondre parce qu'elle n'est responsable de rien. Mais c'est évident que la direction de France Télévisions est partiale sur le plan politique et idéologique.
Mais pourquoi tu dis c'est un tribunal, c'est une commission politique?
Parce que vous n'avez pas l'impression que finalement on cherche à accuser plus quelqu'un que... Moi, en tout cas, ça me gêne. Je trouve qu'il y a une espèce de mise en scène.
C'est le procès de la télé publique?
Ah oui, je trouve.
Charles Lalonde veut savoir ce qu'on fait de mon argent.
Non, mais alors,
je le remercie.
Ça, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose que l'on veuille contrôler. C'est pas le problème. Sauf qu'il y a une espèce de mise en scène, moi, qui me gêne. Vous avez pas vu ces espèces de petites séquences qui à chaque fois sont repassées en boucle sur Twitter, sur TikTok, etc.
Par exemple, la question sur Bardella, elle est pertinente.
Tu parlais de Patrick Cohen. À un moment donné, t'as bien vu que ces propos, ils ont été transformés. ils ont été revisités ces propos.
Moi je trouve que ce qui est problématique peut-être, c'est de quel est l'intérêt d'auditionner Léa Salamé, Laurent Delahousse hier. Tu dis où va mon argent, mais ça tu interroges la direction, interroges les sociétés privées qui travaillent pour le service public,
bien sûr, les boîtes de production,
pour essayer de comprendre comment fonctionne tout cela. Interroger les animateurs ou les journalistes, je vois pas tellement l'intérêt.
Les animateurs et producteurs.
C'est pour ça que je parle de tribunal. On va dire politique.
Mais moi, j'ai écouté un peu hier l'audition de Laurent Delahousse. Je croyais d'ailleurs que c'était bien débrouillé, mais on avait l'impression que c'est des téléspectateurs qui posaient des questions comment vous fabriquez quoi les choses, là vous faites comme ça, etc. Bon, très bien. Alors, on voit bien que les députés, on est content, ils sont payés pour s'intéresser à comment on organise un journal, etc. Mais est-ce qu'effectivement, c'est le rôle d'une commission d'enquête? J'étais assez surpris en fait par ces questions qui étaient un peu naïves.
Ah, tu peux pas résumer la commission à ça?
J'ai écouté hier après-midi l'audition de Laurent Delahousse, je me demandais à quoi ça servait.
Michel veut intervenir là pour conclure notre discussion. Michel de Paris, bonjour Michel.
Bonjour.
Bonjour Michel, bienvenue. Qu'est-ce que vous pensez du fait que Léa Salamé quitte la présentation du 20h si son compagnon est candidat? Alors dites-moi, c'est une règle qu'elle a fixée elle-même d'ailleurs, dites-moi.
Alors d'abord, moi je ne connais pas Léa Salamé. Je pense qu'elle est correcte, théologiquement correcte, qu'elle est droite, premièrement. Deuxièmement, moi, ce qui m'agace profondément, c'est que ce sont toujours les femmes qui doivent partir.
Oui,
c'est vrai. Alors, il y a eu Béatrice Schomberg, il y a eu, André Pulvar.
Oui.
Il y a Léa Salamé. Alors, c'est toujours pareil, quoi. J'aimerais bien, moi, voir un homme partir parce que sa femme est élue maire de Paris. C'est toujours pareil, quoi. C'est toujours les femmes qui partent, quoi. Voilà.
Mais pour le moment, il n'y a pas de présentateur dans la campagne, dont la compagne.
Eh oui, mais c'est.
Ça tombe toujours sur les femmes. C'est elles qui portent la charge.
Trouvez-moi un exemple d'un homme qui a dû partir parce que sa femme était candidate à je ne sais quoi. Vous en avez un?
Parce que le cas de figure ne s'est jamais présenté.
Si demain on apprend que Marine Le Pen est en couple avec Patrick Cohen, est-ce que Patrick Cohen devra quitter l'antenne? Voilà, c'est une vraie question.
Non mais alors, certes...
Est-ce que lui voudra déjà la quitter l'antenne?
D'abord, excusez-moi, je me répète, moi je pense, je la connais pas, je me répète, je pense que Léa Salamé est très correcte. Très correcte. Et effectivement, si Glucksmann va au second tour, là, il y aura un énorme problème, on n'en parle plus. Mais... Je sais pas, c'est toujours les femmes qui prennent, quoi, voilà. Elles doivent quitter leur carrière.
On doit s'effacer. C'est vrai, Michel.
C'est pas vrai. Il y a eu un exemple, un contre-exemple. Quand Thomas Soto était avec la conseillère, comme de Gabriel Attal,
Mayada Boulos,
Jean Castex, eh bien, il a dû s'écarter de l'antenne.
J'ai trouvé ça complètement idiot.
En plus, que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est idiot.
C'était l'exception qui confirme la règle.
Oui, mais je trouve que dans les deux sens, c'est idiot.
Michel,
si on veut, d'accord.
Alors Michel, on va regarder ce qu'en pensent ceux qui nous ont suivis, ceux qui ont suivi la discussion là. Et je vous remercie d'avoir été avec nous là pendant un quart d'heure. On a posé la question, est-ce qu'elle a raison de quitter l'antenne, justement, si son mari est candidat, parce que c'est une règle qu'elle s'est imposée. Vous êtes raccord, Léa Salamé et vous qui suivez, à 80.
Pas raccord avec nous?
Ah non, du tout.
Avec
sa décision à elle, vous êtes raccord à 90%. Dans un instant, Giroud, ça vous dit quelque chose, Giroud? Giroud, l'ancien entraîneur mythique de la JOCR, qui est consultant pour le football, il a évoqué les équipes féminines de football, Giroud. Et voilà ce qu'il a dit. Une femme est faite pour mettre des enfants au monde, c'est ce qu'il a dit. Avec un bassin plus large, les meilleures joueuses de foot sont taillées comme des garçons. Voilà ce qu'il a dit, Giroud. Est-ce que c'est un dérapage sexiste ou pas? C'est au 32-16 qu'on va en discuter quelques minutes avec vous. A tout de suite, il est 11h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Alors, les GG, les Grandes Gueules. sur RMC et RMC Story, à la radio, à la télé, avec aujourd'hui Jean-Loup Bonamy, le prof de philo, Sandrine Pégan, l'avocate, et Didier Giraud, l'agriculteur, l'éleveur de bovins. 11h moins le quart, on va s'intéresser aux propos tenus par le mythique entraîneur de foot et consultant Giroud, propos tenus au journal L'Est Éclair. Vous vous souvenez, on a évoqué, c'était hier, la sanction contre le consultant Daniel Bravo. Parce que pendant le commentaire du match Paris Football Club Marseille, à un moment, il voit deux joueuses de foot qui discutent entre elles. Il dit, elles sont pas tellement concernées par le match, elles doivent discuter lingerie. Bon, ça, c'est ce qu'a dit Daniel Bravo. Et puis, il a été suspendu de la chaîne Bein. Là, Giroud...
Par le Qatar, ce qui est quand même, en termes de droits des femmes...
Là, Giroud met la barre.
Excusez-moi, mais...
Un petit peu plus haut encore, l'ami Giroud, dans les propos tenus dans L'Est Éclair.
Il était interrogé sur le football féminin. Voilà ce qu'il dit. J'ai beaucoup de respect pour ces jeunes femmes qui pratiquent leur sport favori. Mais si vous me demandez si les rencontres féminines sont spectaculaires, je vous renvoie au match de D1 qui se dispute devant 800 spectateurs. Pour lui, ces matchs sont pas spectaculaires et c'est notamment en raison de l'écart physique entre les femmes et le foot masculin auquel il est habitué. Et il dit finalement, une femme est quand même faite pour mettre des enfants au monde avec un bassin plus large. Voilà ce que dit Giroud. Et le foot n'est pas fait pour les bassins larges. Avant de conclure, les meilleures joueuses de foot sont taillées comme des garçons. Est-ce que ces propos sont sexistes ?
Est-ce que Giroud doit s'excuser ? 32-16 pour en parler avec les GG.
Non mais Didier, parce que Didier...
Didier
avait...
Giroud.
Bah moi, ce que je vais dire déjà, c'est que Giroud... C'est pas le plus grand fan du rugby féminin, du football féminin. Ça vous a pas échappé. Et après, Giroud, c'est un vieux monsieur de 85 ans. Laissez-le tranquille, quoi.
Non,
à un moment donné, on peut monter en épingle des propos rapportés dans un pauvre canard que personne ne lit. Mais tu vois.
Pas gentil pour nos confrères, c'était clair.
Ouais, mais je peux tout dire, moi aussi. Non, mais à un moment donné, on peut en faire.
C'est bizarre le
propos. On peut en faire une affaire. Après, concernant ce qu'il dit, bien sûr que les femmes sont faites pour faire des enfants, on peut appeler ça un dérapage, un truc grave, enfin,
en même
on peut
temps, c'est
l'appeler
factuel.
Comme on veut, mais après il y a quelque chose de factuel et il y a des études qui prouvent que une des limites des performances en course, en natation, en saut, qui sont différentes entre les hommes et les femmes, c'est la largeur du bassin. Voilà, c'est des faits scientifiques prouvés. On peut dire que ceux qui disent ça, c'est des infâmes salopards de misogynes, mais c'est des faits scientifiques. Voilà, c'est comme ça. Et je vais pas défendre Giroud pour défendre Giroud. Moi, j'aimerais juste qu'on laisse vieillir en paix, tranquillement.
Il dit qu'en fait, que physiquement,
mais c'est
le foot n'est pas fait pour les femmes.
Et entre autres, l'étude et les faits sur la natation.
Non mais alors Didier, tu peux pas quand même ta ligne de défense elle est bidon, pardonne-moi de te le dire,
mais oui,
tu peux
mais
pas dire à chaque fois que c'est sur l'histoire d'une génération, quoi. Ou tu veux le défendre?
Non, parce qu'il dit oui.
Ma ligne est bidon, je l'accorde,
merci.
Mais
merci,
j'y crois, monsieur. Ma ligne.
C'est un avocat de cause perdue, Didier. Ouais.
Non, mais parce que Giroud, de toute façon, lui, tout ce qu'il veut faire, c'est provoquer. Et provoquer, c'est triste, tu vois. Moi, je trouve que c'est une remarque sexiste. Il aurait mieux fait de se taire.
Oui,
déjà, vive le football féminin. Qu'il soit pas partisan de cette discipline, c'est son problème. Mais vive le football féminin. Et t'as pas à ramener ça à des propos qui sont sexistes. Pour moi, il aurait mieux fait de se taire.
Oui, mais du coup, regarde le football féminin. Et regarde les joueuses qui sont performantes, comment elles sont faites. Bah, elles ressemblent des hommes, je suis désolé.
Mais est-ce que
moi, je regarde le rugby féminin, les filles qui sont performantes, elles ressemblent des hommes. Voilà. Est-ce qu'on veut ça? Parce que après, on va aller de plus en plus loin dans la performance. Et derrière ça, se pose aussi le débat des transsexuels qui combattent, qui courent, qui se mesurent aux femmes, aux JO, quoi. Enfin, à un moment donné, on peut ouvrir tous les débats autour de ça. Mais il y a des différences.
Il y a des différences physiques
et physiologiques entre les hommes et les femmes, et ça ne donne pas le même niveau de performance. Voilà,
c'est un fait,
et on peut le regretter et pas le fustiger.
On va écouter Jean-Loup Bonamy, s'il vous plaît. Je suis sur mon téléphone, mais je ne suis pas en train d'envoyer des messages, je suis en train de consulter quelque chose. J'aimerais savoir, est-ce qu'on peut avoir une position équilibrée qui est à la fois, qui consiste à la fois à défendre Giroud et en même temps à soutenir le football féminin?
Nuancé.
Voilà,
mon cher Jean-Loup Bonamy.
Alors,
philosophe.
Moi,
je suis tout à fait favorable
au football féminin.
Ah,
et je pense qu'il sait très bien et qu'il faut en encourager la pratique. Et donc, je désapprouve toute critique contre le football féminin.
Il y a un vrai engouement, hein, tu
très bien. Il y a un vrai engouement et je m'en réjouis. Donc, je trouve ça très bien. En plus, je trouve que le propos de Giroud, il peut prêter à confusion. Qu'est-ce que ça veut dire ? Faites pour faire des enfants. Est-ce que c'est-à-dire leur place est à la maison en train de s'occuper des enfants,
bah, auquel cas compris, mais oui.
On condamne ce propos. Ou est-ce que ça veut dire, parce que c'est ce qu'il dit après, faites physiquement, biologiquement, pour faire des enfants. Parce que il faut quand même partir du réel, qui est une différence physiologique réelle. Donc là, je prends, j'avais enregistré ça justement sur mon téléphone. Donc là, c'est les déclarations d'une ancienne joueuse de tennis qui a été classée numéro 1 mondiale. Donc quand même, et qui défend à fond le tennis féminin. Et cette ancienne numéro 1 mondiale nous dit « La supériorité masculine en sport ne repose pas uniquement sur la force, mais aussi sur l'endurance physique, la masse musculaire. Pour des raisons génétiques, c'est un ensemble de facteurs. » Voilà. Et elle me dit « Je me souviens que moi-même, même quand j'étais numéro 1, je n'ai jamais réussi à battre mon frère. Et même avec des partenaires d'entraînement masculin non professionnels, je n'ai jamais pu gagner un set contre eux. Un joueur masculin classé 100e, est à peu près du même niveau qu'une femme classée 10e au tennis pour des raisons biologiques. Moi, je suis pour le tennis féminin, je suis pour le foot féminin, et il faut tenir en compte, prendre compte de la réalité de la biologie, ce que disent les joueuses elles-mêmes. Voilà, donc je suis à fond pour le foot féminin.
Mais lui, il dit pas ça. Lui, il dit que ça l'ennuie de voir du foot féminin.
Oui, et bah, ça, il a tort. Que... Et ça, il a complètement tort. On désapprouve.
On a un entraîneur de football féminin.
C'est vrai qu'il y a des différences physiologiques qui impactent la performance.
Bah oui, bien sûr.
La championne du 100 mètres, c'est pas la même chose.
D'ailleurs, les Allemandes de l'Est, à l'époque, elles prenaient de la testostérone.
Oui, mais Jean-Louis, toi, tu dis ça parce que t'es rationnel. Lui, il est pas du tout.
Voilà,
il
est pas du tout. Je soutiens le foot féminin et je trouve ça excellent.
C'est beau, on comprend rien. Et laissez Alain donner la parole. Philippe,
Olivier, monsieur le juge.
Qui est avec nous. Philippe, bonjour.
Oui, bonjour.
Philippe qui nous appelle du Morbihan. Il a été coach d'une équipe féminine, c'est ça, hein, Philippe ?
Oui, c'est ça, ouais. Pendant un an et demi, presque deux saisons, j'ai coaché chez les filles.
Alors, est-ce qu'il a raison, Giroud, dans ce qu'il dit ?
Non, il dit tout. Enfin, pour moi, il n'a pas raison. Mais il dit tout ce que tout le monde, enfin, ce que beaucoup pensent tout bas, de toute façon, dans ce milieu-là. Quand je discute avec soit des anciens collègues coachs, soit mes enfants, tout simplement, qui jouent aussi au foot, ne comprennent pas pourquoi, par exemple, j'étais parti entraîner une équipe de foot féminine, que ce n'était pas du football, qu'on s'ennuyait, que c'était pas plaisant du tout, quoi.
Donc, en fait, c'est un coach qui a une vue d'une certaine époque, quoi, en fait, c'est ça ?
Ouais, peut-être, ou alors, tout simplement, moi je le fais, enfin, il y a le plaisir aussi, moi quand j'ai entraîné une équipe de filles, la progression était beaucoup plus visible quand je travaillais avec elles qu'avec des garçons, par exemple, on part d'un petit peu plus loin, effectivement, mais déjà, je trouve qu'elles avaient envie, toujours présentes en séance, aux entraînements, elles avaient envie de progresser, elles avaient envie de travailler, et moi j'ai pris mon pied, en tout cas, à coacher des filles. Quoi.
Alors, non, mais puis ce qu'on peut dire aussi, Philippe, c'est que dans les sports féminins, la différence physique se compense parfois par de la technique, quoi.
Elle existe. Moi, j'ai des filles qui n'avaient rien à envier à des garçons qui jouent. Qui joue en première division de district, par exemple, ou deuxième division de district. Hein. J'ai eu des filles, j'ai été agréablement surpris. J'avais une fille là qui avait 17 ans ou 17 ans et demi, qui avait été faire d'ailleurs des essais sur Nantes, et qui allait à 200 à l'heure. Elle était puissante, elle allait vite, techniquement, elle était douée, elle avait tout. Moi, je me régalais à la
Alors, foot, Philippe, on a Caroline qui a joué au foot pendant 8 ans au Paris Saint-Germain au plus haut niveau. Bonjour Caroline.
Bonjour les GG.
Bienvenue. Est-ce qu'il a raison, Giroud, dans ses remarques ou pas ?
En fait, la remarque, elle est un peu déplacée, elle est mal tournée, mais je pense que sur le fond, c'est une réalité, c'est réel dans le foot, mais comme dans tous les sports féminins. On ne pourra pas lutter, en fait, c'est physiologique, on ne peut pas jouer dans la même cour que les garçons. Et du coup, il ne faut pas comparer les deux sports, pour moi. Je pense qu'aujourd'hui, les filles sont tout aussi techniques que les garçons. Mais par contre, ça va moins vite.
Facteur physique limitant.
Mais quand il dit que les meilleures joueuses qu'il ait vues, elles avaient des physiques de garçons, qu'est-ce que vous dites à ça ?
Bah ça par contre c'est faux. Moi j'ai côtoyé des grandes joueuses à l'époque. Moi je jouais au PSG, il y avait des filles qui étaient en équipe de France et elles n'avaient pas des physiques de garçon, pas tout. Il y en avait, oui, c'est un fait. Après maintenant aussi ça s'est professionnalisé, elles font beaucoup plus de musculation, elles font un travail qui est différent de celui que je faisais moi à l'époque. Mais c'est différent. Après moi c'est tous les sports, c'est comme ça.
Mais le je trouve que la façon dont on présente les propos de Giroud c'est un peu dégueulasse parce que on dit Giroud deux points, une femme est faite pour faire des enfants. On a l'impression qu'il dit en gros les femmes doivent rester à la maison et pas faire
alors
de
c'est
foot.
Pas ce qu'il dit.
C'est pas ce qu'il dit. Et je trouve ça un peu dégueulasse.
Mais qu'est-ce que vous en savez?
Mais parce que j'ai lu toute l'interview. Là. Je peux te le relire si tu veux. C'est pas ce qu'il dit.
Il redevient iconé, tiens, d'un coup.
Non, mais. Je suis désolé, je trouve que même le site RMC présente les choses comme ça et je trouve ça un peu malhonnête. Après, on est d'accord ou pas avec son explication, mais c'est un peu malhonnête.
Justement, à l'approche nuancée, moi, je veux dire deux choses. C'est que, en effet, tu as très bien dit, les propos de Giroud, là, sont sortis de leur contexte et il dit des choses beaucoup moins graves que ce qu'on lui attribue. Mais il y a quand même un truc qui me dérange un peu dans le propos de Giroud, légèrement. C'est quand même toutes les gamines qui jouent au foot et on les soutient et c'est excellent. Tu vois, quand elles lisent les meilleures joueuses ont un corps de garçon,
il ne devrait pas dire les choses comme ça.
Il ne devrait pas dire comme
ça. Mais tout de suite pour la troisième heure des GG. Bien sûr.